Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 105. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Alice Vaché. Alice est un podcasteur de l'empreinte, speaker et animatrice, influente sur les médias sociaux, l'influence et le branding. Dans cet épisode avec Alice, elle nous parle du personal branding, son podcast L'Empreinte, la quête du sens, et comment les marques et les gérants pourraient mieux s'y prendre sur les réseaux sociaux, par exemple avec les influenceurs. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Alice Vaché, un grand plaisir de t'avoir sur mon podcast. On s'est croisé à travers l'idée de podcasting et j'ai découvert ton podcast L'Empreinte. Ta personnalité et profil, on va dire, bien exubérant partout en ligne, très bien fait. Comment est-ce que toi, tu aimes te présenter?
Alors, aimer me présenter, c'est un exercice compliqué. Je ne peux pas dire que j'aime me présenter. Je préfère qu'on me présente, donc tu l'as très bien fait. Je viens d'avoir 30 ans, j'ai mes 30 ans en quarantaine, c'était une expérience... étrange à la fois sympa, enfin c'est non étrange, je sais pas si c'était sympa mais voilà. Aujourd'hui j'ai ma boîte dans laquelle je suis complètement indépendante et je ne souhaite pas embaucher, et ça pour le moment je le répète parce que j'ai des demandes, des CV etc. tous les jours, mais je ne souhaite pas embaucher pour le moment, dans laquelle j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs sur les dynamiques de branding via les réseaux sociaux notamment. Les startups, etc. J'ai un podcast que tu as écouté et que tu écoutes, L'Empreinte, par Bababam. En fait, c'est l'agence de podcast Bababam qui crée L'Empreinte. Et donc, je suis là pour... je suis la voix et puis forcément le relais et l'initiatrice du podcast, hein, avec Pierre Orlac, le fondateur de Bababam. Et c'est un sujet qui te touche particulièrement puisqu'on l'évoquait ensemble juste avant, ambassadrice donc pour les Jeux Olympiques 2024 et la Coupe du Monde de rugby 2023. Ce qui ne veut pas dire que je suis une rugby woman, mais juste en fait que Tony Estanguet et Claude Haché, donc Tony Estanguet pour les JO et Claude Haché pour la Coupe du Monde de rugby, m'ont contacté pour en fait faire rayonner à la fois tous les sports pour les JO et puis pour le rugby en particulier, au-delà de la sphère sportive ou rugbystique. Et ils m'ont identifié comme experte, on va dire, sur tout ce qui est digital, social media. Et du coup, paf, est-ce que je peux porter un peu ces pratiques sur ces sphères-là? Voilà.
Génial.
C'est clair.
Oui, c'est très clair. D'abord, il y avait un petit point que j'adore les jeux de mots. Donc, j'ai passé ma trentaine dans la quarantaine.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est comme ça que tu sais que j'ai toujours pas vraiment fêté mes 30 ans parce que j'étais quand même seule avec mon chat qui, en plus de ça, m'a mangé le saumon que je m'étais préparé pour mon dîner de 30 ans. Voilà, j'étais assez ravie ce soir-là. Mais non, il faudra que je rattrape ça quand même incessamment sous peu avec de la chaleur humaine, parce que s'il y a bien quelque chose que m'a appris... ce confinement, moi qui me trouvais excessivement sauvage et indépendante, eh bien, c'est que j'ai besoin de contact humain. Et donc, je trouve que c'est une jolie découverte, finalement.
Chouette de bien trouver la bonne nouvelle en tout ça. Tu as des mots qui t'animent. J'ai repéré la liberté, la bienveillance, l'audace. Il y a aussi mission, un qui est les femmes en tech, et la deuxième, la quête de sens. Est-ce que ça te convient aussi?
Je pense que même, alors les femmes dans la tech, c'est un petit peu, c'est presque une mission qui me semble pas obligatoire, mais forcément, tu as pu le voir, j'ai quand même une belle audience, etc., sur mes médias sociaux, et ne souhaitant pas être la femme sandwich du coin à relayer du rouge à lèvres, je profite de cette, influence, c'est pas un mot barbare, c'est un mot qu'il faut maintenant savoir employer, pour porter des messages. Et aujourd'hui, pour inspirer, on parlait ensemble en plus de l'inspiration juste avant, Et en plus de ça, j'ai fait mon MBTI et apparemment, je suis inspirateur. Donc, j'avais envie de te dire, il faut que j'y aille pour inspirer les femmes à se lancer, à oser, à continuer à se battre et à rayonner, surtout dans cet univers tech. Quand on parle de tech, on trouve ça même. Et pourtant, c'est un mot féminin, la tech. Mais en fait, ça reste très masculin. Et encore, il y a encore une semaine, je ne sais pas si tu l'as vu, ce classement qui est passé sur LinkedIn, où il y a quelqu'un qui a lancé, voilà, les experts de la tech. Et sur les 40, il avait mis une femme. J'étais, c'est quoi ça, en fait? Et ce matin, il y a une autre personne, ou hier, une femme d'ailleurs, qui a voulu refaire son classement, elle, sur ses experts de la tech. Elle a fait, non, mais voilà, faut remettre les femmes à leur niveau, surtout qu'il y a davantage, il y a de plus en plus de femmes qui rayonnent, excuse-moi, sur ces domaines-là. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est presque même pas un sens. Pour moi, c'est presque une obligation. C'est dans ma to-do. Alice, tu dois forcément parler aux femmes et inspirer les femmes. Et avant le confinement, j'essayais toujours de faire un café rencontre avec une personne de mon réseau, quelqu'un qui me suit ou que j'inspire, ou des messages bienveillants parfois, pour reprendre aussi ton terme bienveillance, qui sont voilà, sur Twitter ou LinkedIn ou Instagram, que je reçois des femmes qui veulent me rencontrer et je raccorde, c'était un peu prétentieux de dire ça, mais j'essaye de trouver dans mon emploi du temps une heure ou deux et pouvoir prendre un café avec ces personnes-là que je ne connais absolument pas. Tout simplement aussi pour parler, échanger sur nos parcours respectifs, parce que ces femmes-là m'inspirent énormément aussi. Hein. Je pense que tout à chacun inspire l'autre, et moi, elles me permettent de grandir, et donc c'est hyper important. Mais je pense que l'autre sujet qui est la quête de sens, c'est ma quête ultime. Et je pense que c'est la. Enfin, humblement, j'espère. C'est la quête ultime de chacun, ce sens. Ça peut être un sens que l'on découvre, qui peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Hein. Il y en a qui, pour leur quête de sens, relève de quelque chose de personnel. Donc, en fait, le travail n'a pas besoin d'avoir de sens. Moi, mon travail est fondamental dans ma quête de sens. C'est-à-dire que je n'ai jamais perçu le travail comme quelque chose, comme labeur. Souvent, quand on était petit, d'ailleurs, c'était un des synonymes. Travail, labeur, machin, etc. Je n'ai jamais voulu que mon travail soit un labeur. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, c'est quand même peut-être le facteur clé d'épanouissement personnel, avec forcément aussi une vie personnelle. Voilà, enfin, on a plusieurs piliers dans la vie. D'ailleurs, on a souvent cette image de chaise à quatre pieds, tu sais. Et si t'as un pied qui va pas bien, bah t'en as trois autres pour te faire tenir. Hein, tu vas scier un petit peu, puis si t'en as un autre qui s'en va, bah t'en as plus que deux. Et là, là vraiment t'es bancal. Donc en fait, t'as tout ce qui est personnel, professionnel, et sur ces quatre piliers, c'est à toi de les construire, de trouver quels sont tes quatre piliers. Et moi, le travail, c'en est clairement un énorme. Et dans ce travail, il me fallait du sens. Et d'ailleurs, ça s'est vu très tôt dans mon parcours professionnel, puisque bon, au tout début, j'ai un peu fait, tu sais, le classique école de commerce, travail en entreprise, etc. Mais je ne me sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui me manquait. Je m'ennuyais profondément. Et pourtant, j'avais du travail. Hein, mais je m'ennuyais en faisant mon travail. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Et du coup, j'ai tenté plein de trucs. J'ai même été jusque chez Carrefour pour un poste clé dans le digital. Mais je m'ennuyais toujours. Et puis, sur un coup de tête, j'ai proposé au directeur de la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, Bertrand Zwiderski, une stratégie un peu audacieuse pour communiquer sur ce qu'il faisait en matière d'écologie, en matière de RSE, sur les réseaux sociaux, donc mon expertise, sans faire de greenwashing. Et en fait, il ne pouvait pas m'engager, mais finalement, il a pris le parti de m'engager en coupant, en fait, il me versait de son service un salaire. Enfin, j'étais déjà un espèce d'électron libre. D'ailleurs, Georges Plassa m'appelait l'infiltré de Carrefour, quoi. La nana qui va pas rester très longtemps. Et quand il est parti, il m'a dit, toi, tu vas pas faire long feu. Il n'a pas eu tort, il est parti. Et Alexandre Bompard est arrivé. Alexandre Bompard, que je salue, parce que c'est quelqu'un quand même de très bien. Et quand il est arrivé, je suis partie, en fait. Je me suis dit, allez, hop. Et là, je ne suis jamais retournée en entreprise. C'est comme ça que j'ai fait ensuite mon business.
Il y a plusieurs choses là-dedans. Je voulais juste revenir sur l'histoire des femmes en tech. Car en fait, moi, j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie et je me suis retrouvé avec le comité en disant, mais il n'y a pas suffisamment de diversité, il faudrait avoir plus de mixité. Et ensuite, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'aller chercher l'expert qui pourrait parler. Et souvent, ce qui pouvait se passer, c'est que une femme ciblée va dire « non, mais je ne me sens pas expert », alors que pleinement l'est, mais il y a toujours ce sentiment, enfin toujours, souvent ce sentiment de ne pas vouloir s'exposer, se montrer comme une experte parce que ça ne me convient pas.
Un autre sentiment, c'est qu'elles ont le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu connais ce syndrome. C'est qu'une femme, par rapport à un homme qui l'a aussi, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas l'avoir, mais les femmes naissent avec ce syndrome. Devoir toujours s'excuser d'être qui elles sont. Parce que la femme, normalement, elle doit être une mère de famille d'abord. Sauf que c'est révolu, ça, maintenant. Une femme peut s'exprimer en tant que femme, sans être une mère. Donc, elle peut, et même moi, je sais que ma maman, petite, s'excusait souvent de devoir travailler. Elle me disait, oui, mais alors, c'est vrai que je suis désolée, moi, je dois aller travailler. Mais pourquoi tu t'excuses, en fait? Et la femme est toujours dans l'excuse, dans l'argumentaire pour dire, mais en fait, est-ce que vraiment je suis légitime? Je suis à ma place? Est-ce qu'il n'y a pas meilleur que moi pour s'exprimer sur ces problématiques? Au lieu de se dire, tiens, on vient vers moi, c'est une opportunité, c'est une énergie, puisque la personne vient vers moi, donc il y a forcément une énergie dans cette action. Et pourquoi est-ce que justement, ça ne me valorise pas, ça ne me permettrait pas justement d'être un levier activé pour progresser, m'améliorer? Et voilà, mais non, il y a ce fameux complexe et ce syndrome sur lesquels les femmes doivent travailler, et je les encourage toutes à le faire d'ailleurs.
Oui, donc dans mes avancées, on va dire, j'essaie de encourager, et puis je reprends deux mots qui te conviennent, enfin qui t'appartiennent quelque part, en tout cas pour toi, dans ta manière, la liberté et l'audace. Et l'audace, c'est de se dire, j'y vais, je vais me lancer. Et dans le fond, parce que j'ai étudié on appelle ça aux États-Unis Women's Studies, c'était mon mineur de concentration à l'université aux États-Unis. Et j'ai souvent, donc j'ai un background là-dedans, et je voyais que, en fait, très souvent, la femme amène une entièreté à tous ses propos. Tandis qu'il y a un cloisonnement qui se fait chez l'homme, enfin, donc tout ça, des grosses généralisations, qui permet de isoler l'aspect expert et ne pas vouloir toucher à l'aspect personnel, qui, par exemple, peut dire « je suis père de famille », « je suis autre chose », enfin, donc d'autres identités, mais souvent, lui, il n'ose pas intégrer ça dans son discours, tandis que très souvent, et je prends le cas de Kara Swisher qu'on a eu sur notre événement la semaine dernière, elle parle de ses enfants, elle parle du fait qu'elle est lesbienne, dans un cadre business. Et très, très souvent, la femme, ce que je pense être vraiment une distinction agréable, amène ce côté personnel dans sa vie professionnelle, tandis que l'homme, il est tout content de parler de l'expertise, mais enfin, pas touche le reste. Qu'en penses-tu?
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ma boîte s'appelle Alice & Co. Hein. On ne peut pas faire plus exposition. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, par contre, l'audace, tu vois, pour revenir là-dessus, j'ai beaucoup de personnes qui font oh, « mais comment tu fais? Comment tu l'as travaillé ?» etc. Alors en fait, à l'inverse de pas mal de personnes, je suis une audacieuse née. Et moi, mes parents essayaient de me... C'est un mot un peu fort, mais de me brimer, de me dire « Alice, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. » Je suis, tu sais, un bulldozer bienveillant. J'arrive, je fonce dans le tas. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé même de façon dans la forme. C'est-à-dire qu'en ski, à un moment, je devais rejoindre un groupe et j'ai foncé dans le tas. Voilà, ça, c'était, j'avais 10 ans. Bah, c'était déjà Alice, quoi. C'est pas fait exprès, mais voilà. Vraiment le bulldozer. Et d'ailleurs, ça l'est encore. C'est-à-dire que ce que je travaille, mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de me contenir. Voilà. Donc, c'est l'inverse. C'est que en fait, on est fondamentalement différents. Donc, quand les personnes me font « Oh là là, mais comment t'arrives à oser? C'est génial, tu peux me donner des astuces. » Mais en fait, je ne sais pas donner des astuces. Moi, limite, c'est « Donne-moi tes astuces pour savoir ne rien dire, me clouer le bec, etc. » Donc, on est différents. On est juste tous fondamentalement différents. Il faut savoir sortir de sa zone de confort à des fins utiles. et savoir aussi s'améliorer sur d'autres. Moi, je dois apprendre la diplomatie, le fait d'écouter. D'ailleurs, le podcast m'apprend énormément à écouter, à être attentive, une écoute attentive, pas juste une écoute pour rajouter quelque chose derrière, parce que ça peut être très mal vu, tu vois. Mais je suis encore toute jeune, mais tu vois, il faut apprendre et s'améliorer. Donc, en fait, oui, et moi, je suis l'exemple parfait qui illustre ce que tu dis, la fille qui va raconter toute sa life au milieu de son business. Mais du coup, donc moi, ça sert forcément au fait que bah, du coup, tu as une communauté qui te suit parce qu'elle ne te suit pas uniquement pour le produit ou le service, elle te suit pour Alice. Alice Vache. Ouais. C'est bizarre de dire ça, on dirait que je me dédouble, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'on suit pour
Alice. Bien sûr.
Moi, quand on se connecte sur des lives que je fais, parfois, on me demande comment va Crapule, c'est mon chat. Bah, tu vois, c'est vraiment, je suis la surexposée. Donc, ça, parfois, je peux te dire, par contre, tu as envie de partir au fin fond du Turkménistan pour qu'on te laisse tranquille. Mais. C'est le jeu. Mais du coup, ça donne du relief, en fait. Tu enveloppes ton business par d'autres choses. Et moi, je trouve que c'est une force pour beaucoup, bien utilisée. Ça s'appelle du branding. Avant, quand on parlait de branding, il y a le mot brand. Et toi, tu es en plus tu es anglais, donc tu comprends bien. On parle de marque. Aujourd'hui, on parle de personal branding. C'est-à-dire que chaque personne doit se marketer. Peut se marketer et entre nous, doit se marketer. Rien que quand on expose son CV en ligne sur LinkedIn, on se markete, on se vend, on se... Voilà. Enfin, je dis doit se marketer si elle veut, si elle postule ou autre, forcément. De toute façon, quand on est un candidat, on postule, donc on se markete, on se vend. Donc, peu importe la forme que cela prend, ça reste du branding. Et moi, en fait, j'ai monté mon business sur ce branding, sur comment on va se marketer pour vendre un produit... quand on a un sportif de haut niveau en fin de carrière, bah, continuer à gagner des sous bah, via du sponsoring, porter des causes simplement. Voilà, comment est-ce qu'on va faire? Et ça peut prendre plusieurs formes. Et du coup, dedans, forcément, il y a du sens. Tu ne peux pas être une marque qui incarne des valeurs si tu n'as pas trouvé ton sens. Enfin, le sens que tu veux y mettre. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, bah, ça, c'est sûr.
Les deux côtés se rejoignent là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je m'éclate à faire du branding. Et aujourd'hui, je suis obligée d'expliquer, de mettre des mots genre social media, digital, RSE, alors qu'en fait, tout ça, c'est du branding. Mais ça reste trop vague. Des gens ne comprennent pas si je dis, bah, je suis experte. Enfin, experte. À 30 ans, on ne peut pas être experte de grand-chose. Mais, enfin, quoi que tu vois, je suis encore en train d'excuser. Tu vois, encore une fois.
Oui, non, mais tu es experte de toi.
Et encore que j'ai du boulot à faire. Hein. Peut-être que j'allais voir un psy qui m'aide pour certains trucs parce que moi, je suis plus dans l'aide pour le psy. Mais tu vois, enfin, en fait, je pense qu'on n'est jamais expert de soi-même et que justement, on grandit. Bon, ça, j'ai un petit groupe de zèbres avec moi. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les zèbres. C'est des personnes un petit peu toujours en... pas hors normes. Enfin, en fait, tu vois ce que c'est, les hauts potentiels ou pas?
Ouais, bah, bien sûr, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant 16 ans, donc je comprends bien ces termes.
Écoute, j'ai été diagnostiquée zèbre, et depuis, c'est bien plus simple, parce que tu comprends que bah, tu es quelqu'un qui va toujours, jusqu'à la fin, et jusqu'à ton dernier jour, te remettre en question. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand tu le sais, en fait. C'est très bête.
Alors, ce qui est intéressant, Alice, parce que je suis comme toi, je suis quelqu'un qui a quitté le monde corporate, moi, je l'ai quitté il y a 10 ans. Et j'ai travaillé dans la grande consommation, on va dire, chez L'Oréal. Toi qui as travaillé chez Carrefour, j'essaie de faire un croisement parce qu'en fait, cette histoire de faire du social en tant qu'une personne, c'est ce que je pense être la bonne piste. Et je ne parle pas simplement de personal branding, le fait de se exposer. L'idée n'est pas, l'intention n'est pas forcément de me mettre devant, mais c'est de donner de la personnalité aux marques. Et tout le problème des marques, pour parler de tes parents qui te bridaient, c'est que la marque de, on va dire, un Carrefour, une grande institution, a tendance à brider la personne à l'intérieur, parce que non, ça c'est pas le discours, hein, c'est pas la com qu'on veut. Comment est-ce que tu vois ça et comment on peut changer?
L'idée, tu veux dire que tu englobes tous les employés quand c'est comme ça?
En gros, oui. Enfin, disons, quand tu as ton profil que je connais, je vois ta personne, tu l'exprimes en entreprise. Moi, j'ai comme discours de me dire que si tu as 50 000 employés, tu devrais avoir 50 000 profils. De gens qui peuvent parler librement. et qui peuvent contribuer, pas être simplement le community manager, mais contribuer en tout cas à un discours et de faire connaître et valoir la personnalité de la marque.
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, le truc, c'est que la tendance s'inverse, et c'est un peu l'inverse, c'est que les entreprises ont compris que les meilleurs évangélistes de marque restent les ambassadeurs, restent les employés. Néanmoins, tous ne veulent pas s'exposer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des données. Ils ont peur. Ils n'ont pas envie aussi. Il y en a qui sont complètement hermétiques aux réseaux sociaux. Et moi, j'interviens beaucoup dans les entreprises, d'ailleurs, pour former ces personnes-là, les encourager, leur montrer comment utiliser les médias sociaux. Mais les entreprises sont plutôt, maintenant, en tout cas, après, c'est vrai que je ne suis peut-être pas très objective parce que je réponds à la demande. Donc forcément, moi, j'ai les demandes entrantes. Donc, je n'ai pas l'overview de toutes les entreprises. Mais bon, bah forcément, vu que j'ai demandé en 30, moi, je les trouve hyper, hyper volontaires sur cette dynamique-là. Après, peut-être que toi, tu as davantage de données pour me dire que bah, finalement, non. Les entreprises préfèrent ne rien dire et pas avoir de porte-parole. Mais moi, j'ai plutôt confiance qu'il y a vraiment une transformation digitale et un essor du digital qui fait qu'elles ont compris que bah, elles-mêmes, quand elles parlent, quand elles s'expriment en tant que marque sur les réseaux, ça marche pas. Et que bah, si c'est ses employés qui s'expriment pour elles, ça va carrément beaucoup mieux marcher. Donc, elle essaye d'incarner. Par contre, en effet, il faut que tout le monde soit au même niveau. C'est ça qui est très compliqué. Moi, tu sais que d'ailleurs, ça m'était un peu reproché chez Carrefour. J'avais déjà beaucoup d'abonnés, 100 000, je crois. Donc, pas 200 000 en tout, mais 100 000. Et c'était pas très bien vu. Le côté, pourquoi elle est surexposée et pas nous ? Bah, parce que je me suis créé mes trucs. Donc, et en fait, du coup, j'avais pas le droit d'exister en tant qu'Alice. Je devais toujours, dans tout ce que je devais communiquer, valider par Carrefour. Valider. Et en fait, bah non, j'ai pas envie, en fait. J'ai envie d'être Alice. Et c'est pour ça que j'en ai eu marre, en fait. C'est pas que pour ça que j'en ai eu marre, c'est que de toute façon, de base, maintenant que j'apprends à me connaître de mieux en mieux, je ne suis absolument pas faite pour être salariée. C'est clair que non. Mais il m'a fallu du temps pour le. Enfin, du temps, non, 4 ans. Mais c'est déjà beaucoup pour moi, je trouve. Il m'a fallu 4 ans pour le comprendre. Je ne regrette absolument pas d'être passée en entreprise parce que si j'avais monté ma boîte juste à la sortie d'école, j'aurais voulu au moins avoir une expérience en entreprise pour savoir si j'allais. Dans le bon sens, mais voilà. Après, moi, j'encourage les entreprises à continuer à proposer des formations, à accompagner ses employés sur ces problématiques-là. Et de toute façon, beaucoup, c'est des RH qui demandent. Hein. Donc, les RH, tout ce qui est ressources humaines, c'est toutes celles qui sont en charge de la QVT, donc tout ce qui est bien-être au travail, etc. Et elles demandent elles-mêmes des formations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est que ça devient important pour certains, sans forcer. C'est des propositions de formation et ça, c'est bien la dynamique. Voilà, on vous laisse accessible l'opportunité de vous former et de savoir communiquer sur ces outils-là. Ce n'est pas obligatoire. Voilà les opportunités liées à une formation, etc. Et puis, ça, c'est, de toute façon, la dynamique est bonne. Par contre, il faut en effet l'élargir et la proposer davantage.
Oui. Enfin, en tout cas, il y a ce qu'on dit et le problème, c'est ce qu'on fait. Et pour avoir traversé, bien sûr, ah oui, je voudrais bien que mes 50 000 employés font du jazz pour moi et faire le buzz et que tout le monde me connaisse à travers mes employés. Mais le comment n'est pas aussi évident. Et j'ai même une expérience chez Carrefour qui était intéressante. C'était le patron à l'époque de Carrefour France. Et donc dans un discours qu'il avait fait, j'ai eu la chance d'en parler avec lui après.
C'est qui?
Il m'a dit bon ben, c'est, alors, je m'en souviens pas de son nom. C'était il y a peut-être 6 ans. Si je te dis ce qu'il a fait, tu pourrais me donner le nom peut-être.
Non, parce que je vois, j'ai la personne en tête là, mais j'arrive pas à lui remettre. Moi de toute façon, faut partir du principe que j'ai un problème avec les prénoms. C'est-à-dire que genre dans 5 minutes,
ma femme, pareil.
Ah, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait mes parents, mais il manque ces neurones à moi. Définitivement, j'ai un problème de prénom. Et pourtant, je peux trouver un problème.
Eh ben,
les prénoms impossibles.
Tu as d'autres empreintes dans le cerveau. Mais donc, ce patron, il avait dit, moi, j'en ai ras-le-bol, chez Carrefour, il y a personne qui suit leur compte Instagram, etc. Et il s'est lancé en faisant un site, donc un propre profil personnel autour de sa passion qui était la photo en noir et blanc. Et il a baptisé quelque chose comme Nikon 92, un truc comme ça. Et il s'est retrouvé avec beaucoup plus de followers sur son compte perso de photographie noir et blanc que le Carrefour du groupe. Et à travers, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai découvert après, c'est que c'est sa fille qui l'a aidé à comprendre, bien sûr, parce que généralement l'Instagram est pour moi un endroit beaucoup plus fertile féminin. Et en tout cas, voilà, il a découvert, il a montré sa personnalité à travers ses photos où il a eu des vraiment, c'était joli et ça m'a fait plaisir de le suivre. Et donc,
il faut partir du principe qu'un compte, enfin, peu importe le réseau social, tant qu'il n'est pas incarné et qu'il n'y a pas un humain derrière que l'on voit, il ne sera jamais aussi suivi qu'un compte incarné. Et c'est comme ça. C'est juste comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi, toutes les marques que j'accompagne, je conseille souvent aux entrepreneurs ou de désigner quelqu'un qui sera le porte-parole. Quand on voit le slip français Guillaume Gibault qui incarne complètement le slip français qui explose, Justine de Respire, c'est pareil. Il faut incarner. Pourquoi ? Parce que c'est une personne. On va pouvoir s'identifier à une personne. On ne peut pas s'identifier à une entité froide. Même quand tu regardes Michel et Augustin ont créé deux petits personnages qui sont incarnés. Ça peut même être parfois des personnages comme ça ou des petits bonhommes ou tu vois ou des animaux. Mais le fait d'incarner la marque permet de créer du lien en fait et de créer une vraie identité de marque. Alors qu'un Carrefour, un logo, qu'est-ce que j'ai envie d'aller suivre ? Mais moi, je crois que je ne suis absolument aucune marque sur mes réseaux sociaux. Tu vois ?
Mais ça m'arrive, mais bon, plutôt pour des raisons juste pour observer comment les marques se comportent.
Bon, moi, je voulais, mais je m'abonne pas. Voilà.
Tu es, Alice, tu as deux profils que je connais, où tu es, on va dire, tu es très présent, Instagram et Twitter. Je les vois comme étant deux profils différents, adaptés à chacun. C'est comme ça que je le vois, avec un où tu as plus... enfin des images, tu as bien les segments pour me permettre à suivre des éléments de ce que tu as envie de communiquer sur Instagram, sur Twitter, un flux en direct, tu montres ta personnalité, tu parles évidemment de choses que tu fais et tu rajoutes aussi de l'humour, chose que je vois moins en Instagram par exemple. Est-ce que tu as un fil dans la manière que tu gères ces deux profils ou est-ce que je me trompe?
Alors en fait, c'est pas, j'ai pas de stratégie sur chacun. C'est juste que j'ai une énergie différente sur chaque réseau social. C'est drôle parce qu'Instagram, au contraire, c'était là-dessus que je, avant, hein, parce que là maintenant, je t'avoue que je passe sur mes réseaux même pas une heure par jour. Hein, mais avant, c'était beaucoup beaucoup plus de stories drôles, etc. En publication, non, je publie pas tant que ça parce que de toute façon le reach c'est pas fou, les gens regardent pas les publications, ils regardent beaucoup plus les stories. Mais maintenant ça devient presque plus, Instagram, c'est pas que ça m'éclate moins, hein. Je suis très très présente sur Instagram et d'ailleurs je prends le temps de lire les messages de tout le monde, je réponds pas à tout le monde parce que je peux pas, malheureusement, tu as vu, je pense, la quantité d'abonnés qui est conséquente, et puis je réponds quand même à pas mal de monde. Mais Twitter, en fait, j'ai toujours l'impression que personne ne voit mes messages. Et c'est quand je regarde le reach que je dis « Oh bordel, sur cette connerie, il y a 50 000 impressions, quoi !» Oui, d'accord. Et c'est drôle, mais tu sais que, en même temps, je te dis ça, sur Twitter, j'ai lancé un tweet parce que je voulais que la ville de Boulogne empêche les coureurs de courir parce que j'avais attrapé le coronavirus. Et par un jogger, je pense. Et comme Paris l'avait mis en place, et que dans Boulogne, voilà, je voyais aussi les personnes âgées embêtées pour aller faire leurs courses parce que bousculées par des joggers, etc. Le soir, c'était passé. Donc déjà, toute la ville de Boulogne s'est abonnée à mon compte Twitter et tout. Donc là, encore une fois, tu vois, quand c'est comme ça, tu as quand même de l'influence. Et en fait, le PDG de Dacobello sur Instagram avait vu que j'étais malade. Le soir, je recevais un carton entier de, je pense, aller 50 kilos de noix, de noisettes d'Acobello. Et je me dis, mais c'est fou, j'ai fait un tweet. C'est fou. Mais en fait, non, j'ai pas de stratégie. D'ailleurs, ma vie est une non-stratégie. Et dans mes relations, dans mon business, je ne sais pas ce que c'est que le mot stratégie. D'ailleurs, je peux même pas te dire quelle est ma stratégie à long terme. Je n'en ai absolument pas. On me surnomme souvent la Pocahontas du business. Je vais là où le vent me porte. Et pareil sur Twitter ou Instagram. C'est très drôle, mais typiquement. Hier, je devais communiquer, parce que je me donne quand même un calendrier quand je dois communiquer sur des événements, sur le live que j'anime tous les mardis soirs sur Instagram. Du coup, je commence à faire la story sur Instagram et je devais faire Twitter et LinkedIn dans la foulée. Sauf que je sais pas, je suis allée cuisiner, j'ai fait 2-3 trucs. Je me suis posée, j'ai complètement zappé. Et ce matin, en prenant mon café, du coup, j'ai tweeté, j'ai fait... En fait, je me mets aucune pression. De toute façon, je trouve que la pression, déjà, j'aime pas le mot, je trouve ça moche, n'a pas lieu d'être, ça ne sert à rien. Et puis, s'il y a un loupé, il y a un loupé, et c'est pas pour ça que c'est grave, en fait. Je pense qu'il faut être hyper bienveillant, je repense encore au terme que tu disais, mais aussi avec soi-même. Pas que envers les autres, il faut aussi l'être avec soi-même. Parfois, tu n'as aucune envie de travailler avec quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi. Bon, tu vas clairement être diplomate et juste refuser la prestation, sans lui dire, j'ai pas envie de travailler pour toi, voilà, tu dis juste que tu n'as pas le temps ou autre, mais. Et ben juste, tu t'écoutes, quoi. Et dans la façon de gérer ces réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des jours où je peux absolument avoir aucune envie de communiquer. Et je ne le fais pas. Voilà. J'ai zéro...
C'est vrai que quand tu as autant de personnes, tu vas aussi avoir, malgré toute la bienveillance, des méchants, des gens qui peuvent te dire des méchancetés. Il faut savoir s'abriter aussi de ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, ben, tu es personne.
Mais moi, je t'avoue, j'ai beaucoup de chance, j'ai quand même vraiment une communauté qui est bienveillante, parce que je pense que je m'expose pas tant que ça. Je sais pas si ce que je veux dire, j'expose plus de l'humour. Donc, il y a du. Enfin, un peu, et puis c'est de l'humour qui est pas. Je prends pas trop, je montre pas mes positions politiques, etc. Je ne parle pas de ça, je fais de l'humour un peu facile, tu vois, enfin, le truc sympa. Par contre. Là, on parlait des femmes, mais moi, les plus durs avec moi, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. La jalousie, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à gérer. Parce que je ne comprends pas, quand tu n'as rien fait ou quand tu n'as pas été sur les plates-bandes de quelqu'un, pourquoi tu suscites de la jalousie. On parlait d'inspiration. Moi, il y a des femmes qui me fascinent. Il y a des femmes qui m'inspirent, tu vois, que je rencontre quotidiennement, qui m'inspirent. Je ne suis pas dans la jalousie. Si je trouve que certaines choses sont... mieux, enfin, sont différentes et qu'elles peuvent m'apporter quelque chose, je vais m'en inspirer pour progresser, mais j'ai pas la jalousie. Je trouve que c'est un sentiment stérile, la jalousie. Se dire juste, du coup, j'ai pas envie. J'ai beaucoup de femmes, d'ailleurs, sur Instagram, j'ai beaucoup de femmes qui sont abonnées et aucune n'a jamais aimé une seule de mes photos Instagram. Voilà.
Enfin, il y a ce genre de. Enfin, je retrouve ça beaucoup plus parmi les hommes. Cette idée de liker, c'est presque une démonstration de faiblesse.
J'adore ton point de vue masculin et le point de vue féminin. C'est vrai, pour les hommes, c'est une faiblesse. Les femmes ont le like facile. Et d'ailleurs, même dans les relations amoureuses, souvent, j'ai des copines, mais ils like même pas mes photos. Mais en fait, pour toi, c'est une évidence d'aller liker sa photo, mais pour lui, pas forcément. Et je pense que dans les comportements sur les réseaux sociaux, il faut aussi savoir que l'homme reste un homme, la femme reste une femme.
Et j'ai envie de dire, sans invoquer une religion, Dieu merci. J'ai une dernière question avant que le temps s'éclipse. Et c'est pour les marques. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler beaucoup plus avec toi là-dessus, mais tu es quelqu'un qui est arrivé à avoir un profil très bien en ligne, tu es reconnu comme influenceur. Tu es ambassadrice de ces deux événements incroyables, mais pour autant, enfin en tout cas, donc tu dois être approché tout le temps par les marques et j'ai l'impression qu'ils s'y prennent vraiment beaucoup mal en termes d'approche, parce qu'ils veulent le tweet, ils veulent le machin, parce qu'ils se disent que ça va m'apporter du business. Quelles consignes donnerais-tu aux marques qui, sans on peut dire forcément aller approcher Alice Vaché, peut-être, mais comment mieux faire des approches et intégrer les influents dans leur stratégie à eux?
Tu sais quoi, c'est leur montrer de l'intérêt déjà. C'est je ne fais, tu l'as bien vu, je ne fais pas de partenariat et quand j'en fais, c'est gratuit. Je veux pas être une femme sandwich comme je le dis souvent. Ça m'est déjà arrivé d'en faire du payant vraiment quand. Quand les marques ont du budget, clairement, pourquoi ne pas se servir, soyons honnêtes. Mais par contre, que sur des produits dans lesquels je crois, mais c'est surtout l'approche. Oui, je me fais contacter, mais moi, la dernière d'ailleurs, qui m'a et avec laquelle j'ai même pris le temps d'échanger, et pourtant ils ont honnêtement aucun budget, c'était renseignée sur tout mon parcours. Elle avait regardé mes interviews. Je sais que ça prend du temps, mais du coup, elle m'avait sorti des punchlines que j'avais sorties. Et j'ai trouvé ça super mignon. J'ai lu son message, c'était un message bien construit, qui n'était pas du tout le message type qu'elle avait balancé à 36 influenceurs. où elle m'avait même dit, oui, alors je sais que tu es une audacieuse, voilà, écoute, j'ai l'audace de te contacter, je te dis tout de suite, j'ai pas de budget. Et donc, en fait, aussi, elle s'est adressée à moi parce que je pense qu'elle avait vu ma personnalité, qu'elle s'était dit, cette nana, de toute façon, elle fait pas de payant, ou de, enfin, voilà, ou ce serait hors de prix, donc allons-y au culot. Et malheureusement, il faut aller au-delà d'un community manager ou d'une agence de RP, machin. Il faut trouver, bah, si tu embauches un community manager, il connaît la communauté de la marque, il connaît les gens, il est un petit peu social media benchmarker, il connaît un peu cet environnement et il connaît les influenceurs par leur personnalité. Et donc, il va les approcher d'une certaine façon. Et parfois, il va se dire, de toute façon, cet influenceur-là ne correspond absolument pas à mon ADN de marque. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que si tu as une marque froide et rigide, tu ne vas pas aller vers un clown. Ou sinon, tu vas l'aborder d'une façon, bon, est-ce que tu peux m'aider à détourner la marque? Enfin, voilà. Il va vraiment... Et le problème, c'est que les marques, elles utilisent le marketing d'influence complètement à l'envers. C'est, j'ai besoin de faire du business, il me faut un influenceur. Non.
Je veux me faire paraître drôle, donc je vais chercher un clown. Mais comme je ne suis pas drôle, le clown, il ne convient pas.
Oui, et puis surtout, c'est, j'ai un coup de cœur pour cet influenceur, j'ai envie de bosser avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, tu sais quoi, on parle d'énergie. Dans le business aussi, on en parle. L'influenceur, il le sent. Quand il est harcelé de messages, il sent la marque qui a vraiment envie de bosser avec lui. Tu vois? Et tu as même des marques qui n'ont pas de budget et qui arrivent à en trouver. Et du coup, l'influenceur refuse à la fin. En se disant, de toute façon, ça me fait plaisir. Tu vois? Enfin, en fait, il ne faut pas croire. Et bien sûr, plus l'influenceur va... Ah oui, ça, de toute façon, c'est un bon signe. Plus le prix va être excessif, plus tu vas savoir que le mec a aucune envie de bosser pour ton produit. Il a eu envie de te faire du business. Par contre, il faut aussi savoir que c'est pour certains, ils en vivent. Donc, pour certaines marques qui ont les budgets, il faut investir parce que c'est leur métier. Donc, c'est comme si tu demandais à un postier d'aller poster le courrier gratuitement. Bah non.
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Il faut aussi parfois proposer des vrais contrats de confiance sur du long terme, ou lui dire, bah voilà, tu me balances une story en one shot. Voilà, bah non, ça n'a déjà aucun intérêt en matière de ROI, de retour sur investissement. Et de deux, c'est pas dans la durée. De toute façon, l'inbound marketing, ce marketing de signaux faibles, se fait dans la durée. Donc, il faut des ambassadeurs qui soient vraiment à long terme avec les marques pour que ça marche.
Donc, un, il faut se connaître et savoir qui on est pour bien approcher l'autre. Deux, il faut faire ses devoirs pour comprendre bien qui est l'influenceur.
C'est exactement ce que tu as fait avec moi.
L'adéquation. Et la troisième, c'est travailler une relation à long terme.
La façon dont tu m'as abordé, même pour faire le... Tu sais quoi, t'as fait la marque, là, pour être tout à fait honnête. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup demandé pour faire des podcasts. Comment est-ce que toi, tu m'as demandé? Tu t'es intéressé à mon profil. Tu m'as parlé. Juste avant, bon, on a un peu galéré sur la logistique. Tu t'es intéressé. Et bah, du coup, j'ai eu envie de te répondre à ton podcast. C'est très bête, hein. Et pourtant, j'ai des demandes de podcasts. Et d'ailleurs, il y en a qui, tu vas peut-être attirer des jalousies parce qu'il y en a plein qui arrivent à faire un podcast. Mais et je dis pas ça, je dis ça tout en c'est de l'humilité. Hein, je sais pas du tout. Mais c'est parce que tu es ton propre exemple de comment est-ce qu'on aborde bien un influenceur. Voilà.
Je te remercie pour ces gentils mots, Alice. C'est quelque chose que j'essaye toujours. Enfin, dans ma manière, j'ai 55 ans. J'essaye d'apprendre en faisant et de faire ce que je dis.
Et bah, tu le sais très très bien et j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi dans ce podcast.
Ça fait plaisir, Alice. Comment est-ce que quelqu'un peut, alors qu'il ne te connaît pas, c'est possible encore, te suivre, connaître, aller chercher ton podcast par exemple et par ailleurs se connecter avec toi?
Bah, il peut me suivre sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Oui, il a envie de me suivre, pas Facebook par contre. Il y en a plein qui essayent de rentrer en contact avec moi sur Facebook.
Oui.
Je n'accepte pas, c'est vraiment un réseau que je veux rester, qui reste personnel. Et d'ailleurs, j'ai plus de 1000 personnes qui sont abonnées à strictement rien parce que je ne dis rien. Enfin, c'est pas...
Following, mais pas voilà, connecté.
C'est dommage pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, bah, surtout, ils peuvent retrouver l'empreinte. Ils tapent l'empreinte Bababam ou l'empreinte Alice Vacher. Ils trouveront le lien, la plateforme qui leur permettra d'écouter. Il y a Spotify, Deezer, Podinstall. Il y a plein de plateformes qui permettent d'écouter l'empreinte. Et ils sélectionnent... le profil qui les inspire, ils ne sont pas obligés de tout écouter, ils peuvent mettre pause, reprendre, voilà. Puis même laisser des commentaires pour échanger des retours, même s'il y a des choses qui leur déplaisent. Il n'y a pas de souci, je suis vraiment ouverte au dialogue, je ne prendrai jamais négativement.
Tu vas arriver à ton année d'anniversaire bientôt sur ton podcast, j'ai vu.
Et oui,
je mettrai... C'est bientôt. Je vais mettre tous ces liens, évidemment, Alice Vacher, etc., dans les show notes. Et je voulais dire, juste terminer sur un point qui est ce que tu as évoqué sur Facebook. C'est souvent sur LinkedIn, et c'est quelque chose que je prêche, souvent des gens, et comme toi, je ne veux pas être prétentieux non plus, mais ils veulent se connecter avec moi. Je ne les connais pas. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais me connecter avec quelqu'un que je ne connais pas? Et parfois, ils vont mettre une raison pour laquelle ils voudraient se connecter. Mais je ne sais pas pourquoi. Généralement, je voudrais me connecter avec vous parce que vous dites des choses intéressantes ou parce que vous avez un grand réseau.
Alors là, parce que vous avez un grand réseau, tu te dis tout de suite, jamais, enfin, tu vois.
Exactement. Mais sur quelle planète sont-ils?
Ah, et pareil. Il faut d'ailleurs jamais mettre de ligne. Tu te connectes avec la personne et en fait, souvent, elle accepte beaucoup plus facilement si tu ne mets rien, aucune raison. Et si tu la harcèles pas, parce qu'en fait, si ton profil est suffisamment bien construit et attrayant, la personne qui va regarder, elle va dire, elle a l'air intéressante, je vais me connecter avec elle. Plutôt que de devoir chercher à se justifier, on doit être dans le même business, et puis tu as le droit de refuser, hein. Bien sûr que tu as le droit de refuser.
C'est sûr. Mon parti pris, c'est que sur LinkedIn, je veux, comme toi, tu avais ta parti pris sur Facebook, par exemple, qui donc c'est un endroit perso, et je suis d'accord avec toi. Sur LinkedIn, c'est un réseau où je connais et j'ai confiance en les gens avec lesquels je suis connecté. C'est les deux principes par lesquels j'ai trié. C'est pour ça que je n'ai que peut-être 3 ou 4 000 personnes. Enfin, parce que j'ai 55 ans, encore une fois, et j'ai quand même traversé du monde, etc. Mais je suis assez farouche. Je ne veux que connecter avec les gens que je connais et je fais une certaine confiance. Évidemment, il y a des nuances dans tout ça parce que, voilà. Mais c'est un monde où il y a peu d'interactivité, déjà. Et donc, si c'est un réseau, ça doit être social aussi. C'est pas juste utilitaire et il faut avoir un bon sens dans les relations. Et la quête du sens existe aussi dans les réseaux. Alice, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'adore ton énergie. Je te souhaite plein de bonnes choses et content de te suivre et peut-être croiser un match de rugby un beau jour.
Si j'ai des invites, je te les forward et on ira se voir un match de rugby.
Chouette. Merci Alice.
Allez, merci.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die suburb. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man. Here in these confines, a convinced man. In the arms of a woman, I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man.
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man. In the arms of a woman.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.